Bonjour tout le monde. Enfin, à 14h07, ce mercredi 2 mars, Spectaculaire reprend. Ça faisait quelque temps, une petite pause les semaines précédentes, mais aujourd'hui nous sommes bien là, émission numéro 255. Christophe Rollin, je suis bien au micro, Francis est là, et nous avons bien invité aujourd'hui un homme. On a reçu différentes femmes au mois de février, c'était très très bien, et là nous recevons un homme, c'est très bien aussi, Richard Robert, directeur de l'Opéra Underground, c'est-à-dire c'est la salle sous l'opéra, qui a une programmation, je l'ai qualifié sur le blog, j'ai mis à la grande exigence et une de haute qualité, puisque elle est sous l'opéra, donc je voulais quand même ne pas rester sur des choses profondes, donc gagnons de la hauteur. Une émission qui va être consacrée donc à la programmation riche également, programmation qui va être avec maints concerts, événements gratuits, payants, vraiment tout type de choses dans la salle dessous, dans la salle dessus également sur la grande scène. Bref, Richard Robert nous dira tout jusqu'à 15h comme tous les mercredis. Un petit portrait peut-être pour commencer. Et nous allons débuter l'émission avec justement une des dernières programmations de grande qualité. C'était absolument génial. C'était un Lyonnais, Arundel, qui était d'ailleurs avec d'autres Lyonnais, le Quatuor Emana, et c'était à la mi-février. Écoutons le titre Bluette, extrait de son album In Back, volume 1, featuring Barbara Carlotti. Et puis ensuite, nous questionnerons notre invité sur la programmation, sur tout ce qui va se faire à l'Opéra Underground d'ici la fin de saison. Vous nous écoutez sur le 102.2 de la bande FM à Lyon, c'est très bien. Sinon, si c'est sur internet, c'est radiocanu.org. Et voilà, nous sommes à l'antenne. Bonjour, bonjour Richard, bonjour, bonjour Francis.
Bonjour.
Oui, c'est peut-être parce que j'ai peu de voix. Alors Francis, il faudra que tu assures une importante partie des questions, bien que la première, Richard la connaît peut-être. Je la lui ai annoncée avant que l'émission débute. Richard Robert, vous qui êtes directeur depuis, c'est assez récent, la mi-2020, c'est ça ?
Depuis septembre 2020, oui.
À l'Opéra Underground, eh bien, qui êtes-vous, Richard Robert ? Comment êtes-vous arrivé à cette haute dignité, cette belle fonction ?
On commence par une question vertigineuse, quand même. Qui êtes-vous, carrément ? Non, mais c'est la première fois que je suis directeur dans ma vie, donc j'ai attendu quand même un demi-siècle. Qui suis-je? Je ne sais pas. Je suis quelqu'un qui, en fait, qui j'espère reste un amateur finalement en toutes choses et en particulier dans ma manière d'écouter ou de recevoir la musique et d'autres formes d'art. Je commence peut-être un peu bizarrement, mais pour moi, c'est vraiment, c'est en fait, j'essaye de répondre à la question et c'est ce qui me vient comme ça tout de suite à l'esprit avant de parler d'un parcours professionnel. J'ai envie de parler de mon parcours d'amateur qui, j'espère, est toujours un peu là. Mmh. J'espère vraiment garder cette. C'est pas un programme et c'est pas quelque chose auquel je pense tous les matins en me rasant, comme disait l'autre, mais d'autant que je ne me rase pas, mais c'est, je m'aperçois en fait que c'est quelque chose, une chose à laquelle je tiens beaucoup, c'est de garder cette sorte d'étincelle ou de rapport en fait aux choses qui m'animent, que j'aime, et la musique donc en fait partie depuis longtemps, dans l'écoute, dans la pratique, dans la manière encore une fois de la recevoir, y compris dans l'exercice de mes fonctions. Et donc, pour répondre enfin à la question, je suis, avant d'avoir été en tout cas, puisqu'il faut parler de nos fonctions, c'est un peu ça, on se définit beaucoup par nos fonctions.
Peut-être une petite remarque de vocabulaire, parce que je sais que vous êtes sensible au vocabulaire, le terme amateur n'est pas du tout à prendre de manière péjorative, quel amateur !
Certainement non, pas, et c'est une...
Quelqu'un qui aime.
Ouais, exactement, amateur, c'est la personne qui aime. Ce qui est très étrange, c'est comment on a tordu ce mot pour en faire un synonyme.
Les lieux communs, par exemple, aussi.
Voilà, c'est un synonyme de quelqu'un d'impréparé,
rigolo, ou
qui ne fait pas les choses sérieusement.
D'imposteur.
Alors qu'aimer, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus sérieux que ça. Mais après, ça indique aussi une forme de, peut-être de, non pas de légèreté, mais en tout cas l'esprit de sérieux m'assomme très vite. Les gens qui se prennent trop au sérieux, ça m'accable très vite. Et il y en a beaucoup de partout, mais c'est normal, c'est comme ça. Et je prétends pas, moi, ne pas avoir de sérieux, mais j'aimerais me mettre à distance, en tout cas, de me prendre trop au sérieux. Et ces histoires de fonction, finalement, font que on les brandit un peu souvent, comme une définition de nous-mêmes, alors qu'on a plein d'autres choses que d'être simplement directeur, programmateur, administrateur, je ne sais quoi. Enfin, voilà.
Parce que je pense à une citation que j'ai lue cette semaine qui disait « Ce n'est pas le titre qui honore l'homme, mais l'homme qui doit honorer le titre. »
Oui, c'est il faut s'efforcer, je crois, de rester ça derrière tout. Moi, je le suis. J'ai aucun mérite à tout ça. C'est que le parcours que j'ai fait, donc pour reprendre un petit peu les choses dans l'ordre, j'ai eu une première vie de professionnelle, je parle, hein, je ne vais pas raconter ma vie personnelle, sinon, mais de journaliste, musique, on va dire, aux Inrecuptibles, très principalement, puisque j'étais dans l'équipe permanente, donc j'étais vraiment attaché au titre pendant... Je parle de ça comme si c'était un truc, c'était pas une prison, hein, mais j'étais attaché, voilà, permanent, pendant 15 ans, 17 si je compte mon petit début en pigiste.
Alors vous avez connu toutes les formules des Inrocs, non ? Formule au début,
pas tant que ça. J'ai connu mensuel, mais pas
l'actuel.
L'hebdo, oui, l'ancien mensuel, on va dire. Premier mensuel. Mmh. Pas le bimestriel qui était la première, toute première formule, mais le mensuel, puis l'hebdo.
L'hebdo, c'est quoi, 95.
C'est là que j'ai été officiellement embauché comme membre permanent de la rédaction, que j'étais pigiste auparavant. Et après, j'y suis resté jusqu'en 2009.
Il y a eu quand même des chouettes numéros, non ? La couverture avec Bourdieu, il y a eu des trucs.
Oui, c'est
très
forcément celle-là que je garde. mais non, bien sûr, moi, c'est une école, ça a été une école pour moi. très très, enfin une école, je ne sais pas si c'est le mot, mais oui, une expérience en tout cas extrêmement enrichissante, même si à un moment j'ai un peu tiré la langue et que je crois que j'avais fait le tour, non pas de la question, mais j'étais un peu usé, ce qui peut arriver après 12 ou 15 ans d'exercice d'un métier, et puis c'était quand même exigeant en termes de production, de voilà. Après c'est des affaires personnelles finalement qui font qu'on tient la route ou pas.
J'ai un nom qui me revient, Jean-Daniel Beauvais.
Oui, c'est grâce à Jean-Daniel que je suis rentré dans ce magazine, mais en fait je me suis coupé moi-même tout seul, mais c'était pour dire que tous mes choix, enfin mes choix, pas mes choix d'ailleurs, pas tout le temps, mais mon parcours n'a été, comment dirais-je, gouverné, conduit que par des rencontres et des hasards. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu de plan de carrière. Je me suis jamais dit, tiens, il faudrait maintenant que tu sois directeur, ou il faudrait que tu sois programmateur,
bien,
parce que là, il faut que tu gravisses un échelon, ou que dans ta carrière, il faut que tu passes par ça. Enfin, c'est l'étape d'après. Ça ne s'est fait jamais que par hasard ou rencontre, et jamais de manière programmée. Et Les Inrocks, Beauvalet, est tombé sur un fanzine que je faisais avec un ami, avec lequel nous avons d'ailleurs animé une émission ici même pendant 2 ans, à Radio Canu, il y a 20 ans.
Les années 80.
Dans le début des années 90, tout. Ouf. Début. 91, alors, 92.
Ça fait même 30 ans.
Même avant, puisque je dis une bêtise, puisque je suis parti à Paris en 91. Donc c'était en 90, 89, 90. Et avec cet ami, on faisait une feuille de chou, comme il s'en faisait beaucoup à l'époque, et c'est tombé entre les mains de Beauvalet, qui nous a appelés, qui cherchait des pigistes. Donc premier hasard, premier. J'ai rien fait, quoi. J'ai aucun mérite.
Ah,
sauf
si,
d'avoir écrit ce truc-là
voilà,
avec
quel côté amateur.
Mais oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, non, mais ce qui est formidable, c'est que c'est une petite fable qui est sympathique, parce qu'elle dit, bah oui, tu es récompensé quand tu aimes. Alors c'est bien, ça fait plaisir.
C'est pas
toujours le cas.
Et fais-le correctement.
Tu es récompensé quand on aime, mais là, en l'occurrence, c'était... Et du coup, Beauvalet nous dit, bah tiens, on cherche des nouvelles signatures.
Plume.
Un peu. On est... Et puis, ça s'est fait très vite. En 2 ans, il m'a proposé 2 ans après d'intégrer la rédaction comme journaliste donc permanent. Ce qui était, je m'en suis pas rendu compte à l'époque, c'était presque, comment dire, pas une provocation, mais à l'égard de certains anciens qui étaient là depuis plus longtemps, bien plus longtemps que moi, et qui n'ont pas été tout de suite intégrés dans l'équipe. Et moi, je m'en suis pas du tout rendu compte. Donc j'ai quand même eu une série de comme ça de rencontres, de coups de chance aussi, ou d'être au bon endroit au bon moment, je sais pas, enfin c'est
toutes
ces choses-là.
The right man at the right place.
Et ça a duré 15 ans à partir de l'hebdo jusqu'en 2009, et ça a été je ne peux qu'en, enfin même il y a eu des côtés moins sympathiques, moins agréables, tout ce qu'on veut au final, et des années après on retient quand même, enfin moi je suis plutôt comme ça, à retenir les bonnes choses, et ça a été quand même une expérience folle, parce que je n'avais pas de spécialité musical, ce qui a toujours été un peu mon, même si à l'adolescence j'avais resserré un peu mon goût sur le post-punk, sur la new wave, sur la pop après, etc. Mais en fait, enfant, j'écoutais déjà plein de choses par mes parents et par la discothèque un peu hétéroclite, autodidacte qu'on avait à la maison. Et c'est revenu après, et aux Inrocks, j'ai eu cette chance qu'on m'a donnée. Je l'ai vraiment, je la mesure aujourd'hui. Par Francis Dordor notamment, qui s'occupait des pages non-rock, puisqu'il y avait cette distinction dans le journal à un moment. Il y avait le rock, est-ce qu'il n'était pas le rock, et il y avait les musiques, c'était drôle cette distinction d'ailleurs.
Au pluriel, les musiques.
Et Francis m'a aussi, comme JD, ouvert tout un univers que j'osais pas trop aborder, et qui finalement est devenu un univers de prédilection, d'élection, la musique brésilienne, la musique cubaine par exemple notamment, mais pas que, j'ai écrit sur le jazz, j'ai écrit sur la musique contemporaine, j'ai écrit sur tout en fait, la chanson, et c'était fabuleux de pouvoir se faufiler comme ça partout. Alors que ça s'est très vite resserré, moi, à la fin de mon, on va dire, ma carrière,
si mandat,
de mon parcours de journaliste, en tout cas, on revenait vers les pigistes, les gens qui arrivaient sur le marché, entre guillemets, un marché très dégradé, la presse écrite, ça devenait de plus en plus compliqué, ça allait encore plus aujourd'hui. Il fallait au contraire être le spécialiste, ouais, d'un truc pour pouvoir s'intégrer dans une rédaction. Et c'est là où je mesure mon extrême chance, parce que j'ai appris à écrire aussi en même temps. Enfin, c'est une des rares choses, je crois, que je savais faire en entrant aux Inrocks, mais j'ai vraiment appris plein de choses, et sur la musique, et sur la manière d'écrire sur la musique. pendant toutes ces années. Et quand on rencontre Robert Wyatt, Leonard Cohen, Caetano Veloso, c'est des masterclass permanents. Enfin, je les rencontrais pas tous les jours, ces gens-là, bien sûr. Mais quand même, à la fin, quand on fait les comptes, et puis je cite un peu des noms pour faire mon malin, mais il y en a eu d'autres beaucoup moins, je dirais, ronflants, moins. Voilà, qui diront peut-être moins de choses aux gens.
Et, Kevin Shields, non.
Non, pas Kevin, Kevin Ayers, par contre.
Un autre Kevin.
Ouais.
Mais c'est marrant.
C'est des professeurs, enfin c'est des maîtres plutôt que des professeurs d'ailleurs, parce que c'est pas, je dirais, des maîtres et qui m'ont transmis vraiment des choses sur la musique et sur une vision du monde aussi, enfin une manière de voir les choses.
C'est ça que je retiens dans tout ce que tu dis, c'est l'éclectisme de ton passif de journaliste, on le retrouve. Après, plus tard, nous, on a commencé à te connaître sur la région lyonnaise, dans tes nouveaux métiers.
Les nuits de fourrière,
toujours
c'est
ça. Cet éclectisme qui est là, en fait. Ce que tu as eu à la base avec les Inrock, on l'a retrouvé aux nuits de fourrière et on le retrouve encore aujourd'hui au Opéra Underground, il me semble.
Il y a un ancien collègue qui avait écrit que l'éclectisme n'était jamais que l'autre mot pour dire la curiosité, en fait.
Ouais, tout à fait.
L'éclectisme, c'est compliqué à défendre parfois, parce que ça donne l'impression qu'on est un peu on bouffe à tous les râteliers, finalement on n'a aucun goût parce qu'on aime tout.
Amateur.
Mais j'aime bien ce mot en fait. Mmh. J'aime bien le mot de variété aussi qui est connoté dans notre vocabulaire musical.
La variétoche.
Parce qu'on pense tout de suite à Michel Thor, mais en fait c'est un beau mot, variété aussi. L'idée du comment ça, les miscellanées aussi, enfin tous c'est des mots un peu plus savants, mais ce truc de mélange raisonné quand même, et surtout pas tant de mélange d'ailleurs que d'envie de tirer des liens entre les différentes choses qu'on aime. Et moi je me suis pas toujours, mais il y a un moment je me suis dit bon, est-ce que je suis complètement fou, stupide à aimer autant Schubert que Wyatt et Godspeed que je sais pas quoi Tom Zay, voilà. Est-ce que je suis fou ou est-ce que en fait non, je suis pas fou, faut juste que je trouve les liens entre tout ça. Et c'est, du coup, c'est passionnant, enfin, c'est super, c'est amusant, c'est comme un jeu.
Et alors, avec Dominique Delorme, c'est une rencontre aussi qui se...
Oui, ouais, alors il y a eu deux autres étapes, mais je vais faire vite, parce que sinon on va être là jusqu'à dimanche.
Oui, voilà, merci Francis, on essaie quand même de...
Parce que, non, mais pour dire que c'est vraiment toujours des bifurcations, oui, espèces comme ça de hasard, c'est-à-dire que je suis parti des Inrock en profitant, il faut bien le dire, du rachat du magazine par un nouveau propriétaire qui était Mathieu Pigas, qui est toujours d'ailleurs Mathieu Pigas, et j'ai fait valoir ce qu'on appelle une clause de cession. Quand un titre est racheté, on peut faire valoir ses droits au départ. C'est, je crois, le seul cas dans le droit du travail où un employé peut dire « je m'en vais et vous me versez des indemnités ». C'est quand même formidable.
C'est bien
ça. Il faut bien le reconnaître. Donc j'ai fait ça parce que j'étais vraiment un peu exsangue. Et j'ai fait 2 ans de chômage où j'ai créé un site qui s'appelait l'Oreille Absolue. Mais ça, je ne l'ai pas fait tout de suite parce que je ne pensais pas remettre les mains dans l'écriture et surtout dans l'entretien qui était la forme qui me manquait le plus. En fait, ce que j'adorais le plus, ce n'était pas tant les chroniques, donner son avis sur tel ou tel disque, même si c'est un exercice aussi très intéressant, mais c'était le recueillir la parole. Et ça reste quand même un truc que j'aime plus que tout, parce qu'on l'entend pas assez, je trouve, souvent, la parole des musiciens. Et donc j'ai créé ce site qui était totalement avec une asso derrière, un truc absolument pas soutenu, subventionné ni rien. C'était vraiment, j'ai aucun esprit d'entreprise. Donc j'ai fait ça sur mes années, mes mois de chômage. C'était des numéros comme un magazine. J'ai fait un hebdo même à un moment. Donc je remplissais avec quelques amis qui m'aidaient un peu quand même, heureusement. Mais j'ai fait 40 ou 50 numéros. En ressortant mes archives que j'avais soigneusement conservées, enfin, dont j'étais le propriétaire, dont je suis toujours le propriétaire, contrairement à beaucoup de journalistes de la presse écrite qui ont vendu sous la plupart du temps moi j'ai refusé, donc j'ai bien fait, et j'en suis très heureux, et en faisant de nouveaux entretiens. Et puis au bout d'un moment, comme tout ça ne me rapportait absolument rien, et que je me suis retrouvé à 2 doigts de la fin de droit, j'ai commencé à alerter mes amis en disant bon, si vous entendez parler d'un truc. Et vraiment comme ça, quoi. Et en disant, mais si c'est porter des caisses, faire des... Je m'en fous et je cherche pas forcément dans la musique parce que j'avais un peu... Et j'en ai parlé à un ami qui travaille chez Gibert, que je salue, Damien. Et le même jour, l'administrateur des Nuits de Fourvière est passé en disant, on cherche quelqu'un pour programmer. Parce que voilà, il venait d'apprendre que mon prédécesseur, donc Ennui, partait. Donc dans le genre coïncidence, coup de bol, je crois que là j'ai abattu ma carte.
Le hasard ne sourit qu'aux esprits bien préparés.
Jean-Daniel Beauvallet.
Et donc voilà, non mais voilà, c'est pour dire que j'ai même pas. Alors j'ai envoyé après mon CV machin, mais en fait ça s'est même pas fait sous forme vraiment d'entretien de candidature. On s'est rencontrés, on a discuté, on a vu si on s'est reniflé, on a vu que ça marchait et on a. Enfin Dominique, il fonctionne comme ça aussi.
Directeur des Nuits Fourvières, hein, je sais pas si on l'a
directeur des Nuits Fourvières, pardon, Dominique Delorme. Voilà. Mais entre-temps, c'est quand même ce qui m'a aidé, c'est que j'avais une autre bifurcation. À la fin des Inrock, j'avais rencontré Claude Guinard des Tombées de la Nuit, qui est un festival à Rennes. Un très beau festival pluridisciplinaire aussi, pas du tout selon les mêmes échelles en jeu que Fourvière. Mais
un peu plus loin à Saint-Malo, au mois d'août, il y a un festival
ouais, mais
aussi
en
qui
fait,
se tient.
Les Tombées de la Nuit, j'avais beaucoup d'affinités musicales avec Claude, mais aussi ce qui m'a beaucoup appris aussi, c'est qu'il faisait du cirque, il faisait du théâtre, il faisait de la danse, il faisait beaucoup de spectacles dans l'espace public.
Dans les lieux communs.
Oui, dans les lieux, exactement, des lieux communs, beaucoup de gratuits aussi d'ailleurs, et avec Claude, qui je m'entends toujours très bien, et qui je suis toujours en relation, qui continue à Rennes. C'est mes universités, je les ai faites à Lyon, à l'université en histoire, mais j'ai mes universités, voilà, dans ce milieu, si on peut dire, ou en tout cas, je les ai faites avec ces gens-là, en fait, sur le terrain, et avec des affinités, quoi, avec des. C'est très précieux et ça, je mesure ma chance d'avoir croisé Claude. Enfin, c'est Claude m'a écrit en fait quand j'étais aux Inrock en me disant je crois qu'on a des trucs à se dire. C'est quand même voilà un mec qui fait ça, c'est pas tous les jours parce qu'on aimait les Nits tous les deux, parce qu'on aimait je sais plus quel artiste obscur qu'il avait programmé plusieurs fois et que j'en parlais dans les Inrock. Donc ça. C'est là aussi, c'est une récompense de dire, bah voilà. Et un jour, je suis venu à son festival, je trouvais ça génial, je suis revenu une deuxième fois, puis la troisième, il m'a dit, bon, l'année prochaine, tu m'aides. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier de la programmation que j'avais jamais, très peu, et j'avais fait des concerts ici il y a très longtemps et pas beaucoup, avec les mêmes amis dont je parlais tout à l'heure. Et s'il n'y avait pas eu ça sur mon CV, entre guillemets,
ouais,
en tout cas, dans
ça
mon.
Ça aurait pu bloquer
à
pour
Fourvière,
les gens.
Je pense que ça a intrigué Dominique Delorme de se dire tu sais qui ce mec qui était aux Inrock, après qui part tombé de la nuit, il connaissait bien Claude, tout ça. Enfin, c'était un peu intriguant, et puis on s'est rencontrés, et puis on y est allé.
Et
quoi.
Ça a fait. 10 ans à peu près aussi, c'est ça c'est
2012, 2020. Donc 8-9 ans, dont une édition malheureusement finale qui n'a pas eu lieu pour moi en tout cas, puisque c'était l'année du confinement. Mais c'était là aussi, enfin je vais redire les mêmes choses, les mêmes termes que ce que j'ai utilisé pour et les tombées et les Inrock. Et puis là c'était un truc un peu qui me sortait un peu de mes habitudes, on va dire. Plutôt indé, enfin, même si je ne me définirais pas comme ça, mais l'échelle de mes goûts, enfin, là où me portent mes goûts, ne me porte pas forcément vers des grandes échelles comme celle qu'il y a à Fourvière de 4000 places. Et c'est un exercice intéressant de se frotter à ça. Pas seulement parce que moi j'arrivais avec mes modèles musicaux, et à part quelques-uns comme, je sais pas, PJ Harvey ou des gens comme ça qui, finalement, je me rends compte qu'il y en avait quand même pas mal, hein, parmi les grosses têtes d'affiche, il y avait pas mal de choses que j'aime, que j'écoute. Mais c'est vrai que mon curseur, il va plutôt vers des choses qui sont moins. À assez grande échelle que ça, quoi. Donc,
le cahier des charges est compliqué de remplir quand même des capacités de 4000 places.
Ouais.
C'est vrai que c'est pas évident.
C'est pas évident, mais c'est très intéressant parce que ça, et c'est ce que j'ai appris aussi, et avec Claude et avec Dominique de manière très différente, mais ça s'est très bien complété. C'est comment on raconte les choses, en fait. Quand il y a en tout cas un enjeu, un peu plus compliqué. Quand on fait Bjork ou Radiohead à Fourvière, on ne se pose pas la question du remplissage, de comment on va faire pour que le public rencontre l'artiste. On sait que ça va y aller,
ça
a priori.
Va matcher.
Ça va. Par contre, quand on fait un truc un peu plus audacieux, un peu plus. Où on sait qu'il va falloir qu'on vende, mais en fait, il faut qu'on raconte. C'est souvent.
Ouais.
Et c'est ce qu'on a fait avec Moondog, la soirée Moondog dans la grande salle. Certes, il y avait Stéphane Escher, parce que Stéphane Escher était un proche de Moondog et qu'il avait toute la légitimité d'être là pour cette histoire-là, mais on allait quand même chercher un public. Il fallait qu'il y ait au moins 1 500-2 000 personnes pour qu'on ne soit pas tous tristes. C'est pas qu'une histoire économique, mais aussi, on n'a pas envie que ça sonne le creux, tout bêtement. Il y avait l'Orchestre de l'Opéra de Lyon, d'ailleurs, à l'époque, déjà. Il y avait un énorme plateau. Et en finale, on a fait près de 2 000 personnes, ce qui était... mais on y a mis énormément d'énergie pour raconter ça. Et ça, j'ai vraiment appris ça avec Dominique et avec Claude. C'est qu'il suffit pas de dire c'est génial, on fait un truc, on se fait plaisir. On va forcément trouver des gens qui auront. Parce que ça marche pas toujours, malheureusement. Des fois, on est tout seul à s'exciter. Et je vois, moi, vraiment la programmation comme un récit, comme une histoire qu'il faut soigner. Tout à l'heure, vous parliez d'exigence, je sais pas si c'est ça. Mais en tout cas, ça doit pas être qu'un empilement de noms. C'en est un, fatalement, puisque à un moment ça s'empile, mais il faudrait que ça puisse se raconter quand même quelque chose.
Moondog, que vous évoquez, j'ai l'impression que, comme ça, là, mine de rien, nous sommes déjà dans la deuxième partie, peut-être pourrions-nous nommer d'émission, avec la programmation à venir, un concert sur la grande scène de l'Opéra de Lyon, le samedi 14 mai à 20h. Gavin Bryars et Midget qui parlent. Ombre, Moondog Looking for Art Songs, direction artistique avec ben voilà, des noms qu'on empile, Olivier Mélano avec Bertrand Belin, Lou Renaud Bailly, John Graves, Borja Flames, Barbara Dang, etc. Peut-être que nous pourrions justement écouter du Moondog, parce que le temps a un peu filé. Et ça oui. A été quand même une très intéressante première partie, parce qu'il me semble que c'est ce que tu as constaté, Francis. On a déjà parlé de la programmation de l'opéra underground, en quelque sorte, non ? Avec une forme d'éclectisme, du sérieux, des...
Et puis surtout, on comprend mieux la fabrication de cette programmation en écoutant Richard, de son parcours, de son passif. Et je trouve que ça, c'est intéressant de savoir d'où viennent ces choix artistiques, et puis cette ligne éditoriale, qui est quand même, on va dire, assez singulière, parce qu'elle elle est vraiment singulière à Lyon, cette programmation. Donc c'est toujours intéressant de voir d'où ça vient, dans quel cerveau ça peut naître.
Et quelle audace que de programmer tout cela, de donner cela à l'opéra de Lyon, place de la Comédie, en face
parce
de,
que ça on pourra en parler
en face
aussi.
De l'hôtel de ville.
Ces esthétiques dans une institution culturelle telle que l'opéra.
Hyper classique.
C'est très intéressant. Je ne sais pas si ça existe d'ailleurs dans d'autres opéras. Est-ce qu'il y a cette cette différence esthétique.
Petit teasing, je crois, Francis.
Je vais réfléchir à
la question. La réponse va arriver dans quelques instants. Une fois que nous aurons écouté, je ne l'ai pas rappelé tout à l'heure, nous écoutions Arendelle, le titre Bluette avec Barbara Carlotti. Arendelle était sur scène, c'était, je crois, le 12 février, me semble-t-il, un samedi 12. Et à venir prochainement, le 14 mai, Moondog. Eh bien, écoutons du Moondog. Écoutons le titre Do Your Thing, extrait de l'album, c'est le fameux Art Songs. Et puis, nous continuerons. Francis, on l'annonce, chronique 7 à venir.
8.
Chronique 8. Chronique 8, l'égoïsme se partage. À moins 10, peut-être, on tente cela. Tout d'abord, Moondog, et nous continuons sur la programmation de l'opéra underground, c'est-à-dire la salle qui est la salle bis. Je ne sais pas comment la nommer, parce que forcément, on la nomme par rapport à la salle principale, mais en fait, c'est une salle elle-même, quoi. C'est la programmation de l'opéra underground. Moondog, et nous continuons.
Not the
Real Thing, extrait de cet album Art Songs, qui va donner lieu à une date principale le samedi 14 mai à 20h pour Moondog Looking for Art Songs, mais il y a différents événements qui seront également liés à tout cela. Mais peut-être que nous pourrions, Richard Robert, avant d'évoquer plus précisément cette programmation à venir avec différents concerts, Quatuor Emana sera là plusieurs fois, à la mi-mars, également à la fin mai, Mélissa Lavossa en revanche s'est passée, enfin avant d'évoquer ces différents noms, peut-être une petite histoire de cet opéra underground qui, Francis, tu l'as indiqué à l'instant, enfin même tu posais la question,
moi,
comment est-il possible?
Est-ce qu'il y a d'autres institutions en France, et on racontait hors antenne, c'est très intéressant, j'avais zappé cette histoire, mais qu'à l'auditorium aussi, il y avait des concerts qui n'étaient pas forcément que des concerts dits classiques ou de musique contemporaine. Mm-hmm. Est-ce que c'est une spécificité lyonnaise?
Non.
Que les institutions sont soit...
Enfin, je dis non. Après, il y a des lieux de brassage, le Barbican, par exemple, à Londres, ou des lieux comme ça, où en gros, c'est quoi finalement l'idée? C'est cette vieille distinction musique savante, musique populaire, tout ça, enfin, que d'autres pays ont réglé bien avant nous, comme le Brésil. C'est pour ça que j'aime autant le Brésil, c'est qu'ils ne se posent pas la question. Même les États-Unis sont moins formels que nous, formalistes sur ces questions-là. Mais nous, on est encore un peu dans notre vieille...
Guindé, un peu.
Oui, enfin, ça bouge, hein, tout ça, mais ça reste réel. Donc finalement, c'est un peu là que ça se joue. La Philharmonie, bien sûr, à Paris, est un lieu aussi où ça voilà, il y a Amsterdam aussi, enfin il y a plein d'endroits. Mais une maison d'opéra comme celle de Lyon, qui effectivement abrite en son sein, et pas comme un... En tout cas, c'est vraiment la volonté qu'on a, je dis « on » parce que je sais que c'était l'idée de Serge Dorny, et c'est l'idée tout aussi appuyée de Richard Brunel qui a pris la direction en septembre dernier.
Il aurait dû venir mercredi prochain, ça coince un petit
mais
peu.
Il viendra.
Viendra-t-il
et,
à la fin de saison.
Et il dira certainement qu'on ne veut pas que l'Opéra Underground soit le cabinet... Enfin, j'aime bien l'idée du cabinet de curiosité, moi ça me plaît beaucoup, mais pas l'endroit bizarre de l'opéra, quoi. La petite... il faut au contraire que ce soit totalement dans les murs, comme le reste,
est-ce
comme le ballet, comme
se...
l'orchestre, comme le chœur, comme la maîtrise, comme le développement culturel, enfin c'est une force comme une autre, avec les autres, qui apporte simplement, bah oui, qui ouvre une fenêtre qui est différente, parce que fatalement on amène des choses qui sont pas du domaine du lyrique ou du classique.
Est-ce que vous savez si les publics, le public par exemple plutôt habituel de la grande salle, de l'opéra, vient aussi à Opéra Underground et vice versa? Est-ce que le public d'Opéra Underground va aussi?
Il y a du brassage, ouais. Il y a du... Alors après j'ai pas de chiffres, je les retiens pas en plus, les chiffres c'est une catastrophe, mais bien sûr, par exemple, ben, on parle de cette soirée Gavin Bryars Moondog en mai prochain. Il y a eu une soirée déjà avec Gavin Bryars en novembre dernier pendant la carte blanche à
La Féline.
Belin et La Féline, mm-hmm. où on a joué Jesus Blood, qui est sa merveille.
On l'écoutera tout à l'heure.
Voilà, qui est une pièce extraordinaire. Et il y a des gens qui sont venus me voir à l'entracte, puisqu'il y avait deux parties, dont une dame, une abonnée, qui est venue me voir en me disant mais qui c'est ce garçon qui chante? C'était Bertrand Belin en l'occurrence, parce qu'elle avait été épatée par son, dans cet exercice qui n'est pas du tout le sien, d'une écriture qui est une écriture pour le coup de musique savante au sens où elle est écrite, mmh. et que Bertrand ne lit pas la musique, donc il a tout appris à l'oreille, et c'est vraiment pas simple pour un chanteur qui n'est pas habitué à ce genre de choses. Et c'était une dame qui venait, qui vient au concert ou aux opéras ou au ballet, mais qui a priori ne... Donc il y a des portes d'entrée, il y a des comme ça, des diagonales possibles, heureusement.
Au même moment, je vous coupe, Gavin Bryars était joué dans la salle principale, mais était joué comme musique d'accompagnement pour un ballet. C'était également, je crois, carte blanche à William,
oui,
Forsythe.
Quelques jours avant. Ouais.
Donc c'était, ouais, ouais. vraiment, il y avait une concomitance
non,
avec
ça veut dire, oui.
ces morceaux de Gavin Bryars. Et là, pour le coup, on parle de ballet, parce que si, c'est en revanche assez classique, assez normal que les maisons d'opéra abritent aussi des ballets, mais
bien sûr.
Ce qui est de la programmation.
Mais il y avait récemment une pièce du ballet également qui était accompagnée, enfin portée par une musique de Moondog. Donc en fait, c'est ça qui est chouette. Dans tout ça, c'est que les correspondances sont aussi des coïncidences, et qu'il y en a en fait entre nous, les différentes forces artistiques de la maison. Et je pense que là, en plus, il y a une belle équipe, franchement, avec Julie Guibert au ballet.
On va essayer de la faire venir ici le mois
oui, il faut,
aussi.
Parce que c'est quelqu'un de vraiment très intéressant. Véronique Barros qui s'occupe, qu'elle a délégué de tous les ensembles musicaux, donc l'orchestre, le chœur, la maîtrise.
Karine Locatelli est déjà venue il y a quelques années.
Voilà, il y a vraiment des. Je trouve, il y a eu un renouvellement assez important de l'équipe. Et c'est des personnes à qui je peux échanger. Moi, je suis pas du tout dans mon coin à faire mes trucs. Alors, je suis dans mon coin d'une certaine manière. On est tous pris dans nos guidons respectifs, là, la tête dedans. Mais il y a vraiment des choses à faire ensemble. Et on a été un peu empêchés quand même par beaucoup de circonstances qu'on connaît. Mais pas que, on a fait déjà des choses à la preuve. Hein. Pendant la carte blanche, l'orchestre a joué aussi du Glass, du Thomas Hadès et du Arvo Pärt. C'était un programme choisi par Bertrand et Agnès. Donc les passerelles, on les a déjà, la maîtrise a travaillé avec nous sur aussi une création avec Bertrand et Claire Vaillé qui fait partie du groupe Midget, qui jouera le 14 mai avec Kevin Bryars. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut tisser.
Ça se voit, programme Opéra Underground, concert, et juste en dessous il y a marqué tango, folk, soul, pop, créole, musique contemporaine, chanson indocile, pop de haute couture, et on pourrait en ajouter encore des tonnes et des tonnes, j'imagine.
Ah, y a
c'est un peu,
point,
la, c'est un peu ça, la volonté, ouais. En fait, de ce mélange.
Mais nous parlons de la petite brochure sur les mois janvier.
Ça ressemble à ton passif, en fait.
C'est, oui, c'est alors ça. Je sais pas, mais en tout cas, j'espère que c'est, encore une fois, que ça raconte quelque chose. Et qu'il y a des liens possibles. Je dis toujours, je me répète beaucoup, mais c'est bien, avec l'âge, on assume, que mélanger, c'est facile, relier, c'est beaucoup plus compliqué. Mélanger, on peut, hein, ceux qui font la cuisine le savent, hein, on peut mettre tout dans une casserole, et puis c'est au petit bonheur la chance, ça peut être fabuleux ou dégoûtant. Mélanger, c'est pas compliqué, enfin... Voilà. Ou alors ça demande vraiment beaucoup d'un tour de main. Relier, c'est plus compliqué parce qu'il faut faire un travail un peu de voilà, justement, il faut dire tiens, est-ce que ça va vraiment avec ça? Est-ce que ça, c'est relié à ça? À ça, ça a l'air vraiment complètement différent et pourtant j'ai l'impression qu'il y a un lien, ce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Et ce travail de connexion, moi, me passionne et je pense qu'en plus, et je disais ça il y a deux jours à des amis, c'est le privilège quand même de l'âge à un moment, c'est que plus on vieillit et plus on les voit, je crois, ces liens. Entre les différentes choses qu'on aime ou des choses qu'on découvre, on se dit tiens, mais ça me rappelle quelque chose. Ou bien, et c'est pas pour faire des analogies ou des raccourcis faciles, mais c'est parce qu'en fait je pense qu'on fonctionne comme ça dans nos goûts, dans nos inclinations, c'est que nos désirs, c'est que une chose en évoque une autre et une autre et une autre, et quand on, c'est le chemin de la curiosité aussi. Donc j'espère que ça raconte ça, et que si on fait Mendelssohn, Louis-Philippe, qu'est-ce qu'on a d'autre ce mois-ci, Abel Selaocoe, c'est vraiment trois univers complètement différents, a priori, mais j'espère qu'il y a quand même un vrai fil qui les lie. Voilà, je vais pas essayer de le dire maintenant, ça va être compliqué, mais il y en a un, en tout cas, j'en suis sûr, moi.
Et les Arocs, justement, pour parler d'eux, qualifient le dernier album de Mendelssohn d'un grand disque où Pascal Boisiz met en scène avec un bouleversant panache le sacrifice de son groupe essentiel. Le musicien français, pour qui l'ironie compte autant que la beauté, se confie sur cette fin de partie. Un article qui date d'octobre 2021, l'album est sorti, c'est ça, à cette période.
À l'automne, oui, c'est ça. Automne,
et donc là, ouais. Mendelssohn sera présent, si on veut jeter un œil un peu à cette programmation que nous évoquions, parce que j'ai encore aussi autre chose à vous demander. Là, vous parliez de relations, n'y a-t-il pas de beaux liens entre le disque du siècle, mm-hmm. Richard Robert présente Art Songs de Moondog le mardi 3 mai à 12h30, le récital de piano Moondog Bryars par
François
Mardi-Rossian le lundi 9 mai à 18h30, et la soirée contemporain pop Gavin Bryars et Midget, mm-hmm. hommage à Moondog, Low Kick for Art Songs, le samedi 14 mai à 20h. En termes de tarifs, il y a une différence, certaines choses sont gratuites, d'autres pas. Il y a également, en termes d'horaire, midi et demi, 18h30, 20h, c'est...
Ben, en fait, c'est exactement la même... pour répondre à cette question, je dirais que c'est pareil, c'est une sorte d'art du récit. Enfin, je suis un peu pompeux, mais c'est une manière de raconter les choses. C'est-à-dire que c'est pour arriver à cette date du 14 mai. Moi, j'aime bien l'idée qu'on passe par des étapes. On a fait ça avec Philippe Glass une semaine avec les compagnons là, de route du Festival Superspective, avec qui on a fait ça en début janvier. On a fait 5 jours ou 4 jours d'événements gratuits où il y avait François, donc ce pianiste François Mardi-Rossian, jouait, a fait 5 récitals de 45 minutes d'œuvres pour piano de Philippe Glass à 18h30 et à 12h30. Donc sur 3 jours, il a fait 5. Voilà. Et puis on a fait 2 conférences musicales qui étaient formidables d'ailleurs, de Camille Rona, qui est son comparse à Superspective. Donc tout ça, c'était gratuit, c'était passionnant et ça donnait faim en fait. Enfin, moi, ça m'a aussi, au-delà de la question du prix ou quoi, enfin, c'était super agréable à vivre parce que les gens revenaient et quasiment, je dis pas qu'à la fin, on se salue, on se dit, ah, t'es là, mais ça a créé une espèce de petite communauté comme ça de gens qui sont venus du mercredi soir jusqu'au samedi midi sur des choses purement gratuites à l'amphi. Et puis, les 2 soirs du vendredi et du samedi, il y avait, en spectacle payant, parce que là quand même il y a un moment, je leur ai dit, on ne peut pas tout vous offrir, mais les choses ont un coût.
On peut quand même le dire aussi une seconde, le tarif de 22 à 28 euros, oui ça,
ça
va.
Ça c'est la grande salle.
Voilà, c'est une somme.
Dans l'amphi c'est 19 en général, 19 euros plein tarif.
C'est une somme, mais c'est quand même pas non plus.
Et on a un pass qui permet d'acheter 3 places pour 30 euros. Donc on une incitation j'espère à la curiosité, c'est-à-dire qu'on achète, tiens j'ai envie d'aller voir Arandel. Mais je prends un pass, ça me donne 3 places et j'ai le temps de choisir mes 2 autres places et je peux choisir, bah, je sais pas, tiens, je vais essayer Mendelssohn, je connais pas mais ça m'attire, voilà. Donc ça c'est aussi une incitation, alors là purement c'est une histoire de tarifs, de prix, mais ça compte aussi dans l'histoire en fait.
Mendelssohn présent le vendredi 11 mars à 20h, ouais. Chanson Indocile.
C'est donc la dernière tournée.
Et je vois aussi le disque du siècle le lendemain, le samedi 12 mars à 11h30. Une présentation de Dandestin de Robert Wyatt. Par qui est-elle faite cette présentation?
Et par Pascal Boisy.
Justement, oui, de Mendelssohn.
C'est aussi ça. En fait, moi, je suis frustré, pas frustré, non. En fait, je crois que faire une programmation, j'ai une autre analogie en tête. C'est, vous savez, quand les musiciens disent pourquoi vous avez créé ce groupe, parce que je voulais entendre la musique qu'elle n'existait pas. Enfin. Voilà, la musique que j'avais envie d'entendre, elle n'existait pas, donc j'ai créé un groupe. C'est le Velvet, c'est tout ça, là, tous ces trucs-là. C'est vieux comme... et j'imagine les compositeurs classiques ont fait pareil. Ils ont dit, tiens, moi j'ai écrit cette sonate parce qu'en fait, je ne l'entendais pas ailleurs, donc je l'ai écrite. Alors, ça peut paraître prétentieux, mais en fait, moi, je me dis, une programmation, ça doit être ça. On doit faire aussi... Moi, je fais la programmation que j'aurais aimé voir ailleurs. Et j'ai vu plein de choses super chez les autres, évidemment. C'est pas la question. Mais par exemple, ça, le truc de... Mince, il y a un artiste qui passe que j'aime... Il va pas repartir comme ça. S'il a le temps,
on lui met la main dessus.
Il reste le lendemain, il nous fait écouter son disque du siècle et on en discute. C'est... Et puis il a son recueil de textes qui sort. Enfin voilà, donc on va aussi parler de ça. Et l'année prochaine, je peux pas encore trop en parler, mais je vais faire beaucoup de temps plus long, comme on l'a fait déjà avec certains. Gaspard Claus, par exemple, il est venu de 3 jours à Lyon. On a fait 2 concerts et puis on est allé au salon du violon aux subsistances avec lui faire des trucs. Moi, j'aime bien le temps, un peu la durée. Et la durée manque souvent dans nos programmations parce qu'on est tributaire des tournées, des choses comme ça. Et en fait, on peut passer
c'est
à côté
de ça. Utiliser cet outil comme ça, c'est quelque chose d'assez malin, parce que c'est compliqué, enfin, tu le sais très bien dans les salles de concert plus classiques,
bien sûr.
D'avoir ce temps long, c'est même pas possible, en fait.
Souvent, c'est pas possible, et c'est vrai que je dis pas que je suis plus malin que tout le monde, c'est juste que j'ai un outil,
il
faut reconnaître, qui est un super outil, parce que l'amphi, dont on n'a pas vraiment parlé, qui fait 200 places, c'est un amphi, comme son nom l'indique, et on peut mettre de l'image, on peut faire des tables rondes, on peut faire... Il y a un bar aussi, oui. Il y a de nouveau un bar, puisqu'il était fermé. Mais voilà, c'est un lieu de rencontre. En tout cas, et qui est à facettes, enfin, polyvalent.
C'est ça.
Et du coup, ça permet de jouer avec ces choses-là, avec ces formats-là. Le gratuit, le payant. Là, on fait des projections de documentaires gratuites, on fait des rencontres, on fait... Voilà. Et quand il y a des musiciens, il y a quand même beaucoup de musiciens aujourd'hui qui ont des univers très, très variés. Je peux le dire sans faire dévoiler un secret terrible, mais l'année prochaine, on va réinviter Vincent Courtois, le violoncelliste, parce qu'il est à la fois violoncelliste, improvisateur, compositeur, il fait des musiques de films, c'est quelqu'un qui est très dans la transmission, donc il va faire des ateliers, des masterclass, on va l'accueillir une semaine quasiment, et il va faire tout ça, il va nous faire écouter son disque du siècle aussi, parce que s'il est là, il peut pas y couper. Et je veux dire, c'est des gens comme ça qui ont trop de richesse en eux pour qu'on se contente, même si j'aime ça aussi, le concert one shot, j'aime beaucoup, mais je me dis, mince, si on les tient un peu, et s'ils veulent bien se prêter au jeu, qu'ils restent plusieurs jours et on fait plusieurs choses. Voilà, donc c'est aussi mon... un peu ma deuxième, on parle de l'avenir là, puisque je crois que c'était, c'était le volet à venir.
La troisième question,
après avoir écumé mon passé, mon présent, mon avenir, c'est des choses que je... En fait, je ne sais plus qui de vous deux a dit au début qu'il faut... que c'est une programmation qui est singulière, c'est toi Francis, et je te remercie pour cet adjectif qui me plaît beaucoup. Je pense que c'est ce qu'on a tous intérêt à faire, de toute façon, par nature. Et là, s'il y a un endroit où moi je peux apporter quelque chose, c'est ça. C'est-à-dire que je m'inscris dans des tournées comme tout le monde, et comme beaucoup d'entre nous. Mais je pense, et je ne suis pas le seul à le faire, bien sûr, Stéphane Malfette le fait, par exemple, au Sub. Enfin, il y a plein de lieux où on sort un peu, on fait un petit pas de côté par rapport à la seule actualité. Et on dit à des gens, à des musiciens, à des créateurs, à des artistes, quels qu'ils soient, tiens, attends, viens, reste un peu, assis-toi, prends une assiette.
C'est bien ça la particularité des lieux dont tu parles, que ce soit l'Opéra Underground ou les Subsistances, c'est que, voilà, c'est là la particularité et la richesse, qui ne sont pas des salles de concert plus classiques, comme, je vais citer des copains, mais comme le Marché Gare, ou comme le Transborder, ou voilà,
les impératifs ne sont pas
les mêmes.
Et il n'y a pas de modèle plus vertueux qu'un autre, ou meilleur qu'un autre. Moi, simplement, c'est ce que j'avais envie de faire. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, si c'en est une, je suis parti des Nuits de Fourvière, pas parce que j'en avais marre des Nuits de Fourvière, c'était pas du tout le cas. J'aurais pu continuer, mais je me suis dit, s'il y a un endroit où, tiens, tu peux te frotter un peu, voir un peu ce que t'as dans le ventre, entre guillemets, c'est pas une histoire de virilité ou quoi, hein, c'est juste une idée de ça. Bon, alors maintenant, est-ce que tu vas y aller dans un endroit et essayer de faire ce que tu as vaguement quand même dans la tête, et je ne voyais pas d'autre endroit où le faire que celui-là, parce que faut reconnaître aussi, faut être modeste et honnête, c'est une maison, c'est une grosse institution, donc ça veut dire aussi que je peux m'appuyer sur une institution qui me soutient, qui soutient ce projet, qui soutient ce lieu. Je pourrais pas le faire ailleurs. Il faudrait être naïf ou de mauvaise foi pour dire tout le monde peut faire ça. Non, mais c'est précisément parce que l'opéra peut le faire, qu'on doit le faire d'une certaine manière.
C'est ça, c'est un peu ce que je pensais.
Ça, c'est beau, parce qu'on peut, on doit.
Oui, en tout cas.
On se doit de le faire.
Après, moi, j'ai pas vraiment présenté un plan ou un projet clé en main ou quoi. C'est empirique tout ça. D'ailleurs, ça ne cesse d'évoluer au fil du temps, des envies, des rencontres encore. Je continue sur ce truc-là qui a fait ses preuves dans mon cas jusqu'à présent. Mais ces idées, petit à petit, elles se développent et je me dis, bah oui, là, on est au bon endroit, je crois, pour le faire. Et j'espère aussi qu'on pique la place à personne, qu'on fait un truc que non pas personne d'autre ne fait, mais en tout cas quand même on raconte une histoire qui est la nôtre. Et il s'agit pas, moi je suis pas en compétition avec personne, en tout cas je ne suis en compétition avec personne, ça m'intéresse pas la compète, la concurrence. J'ai toujours cette phrase d'Éric De Luca, puisque je vais comme ça lancer la chronique littéraire.
Bravo.
Mais je vais essayer de la retrouver. mais Éric De Luca a dit dans un de ses livres qu'il critique les époques qui incitent ou même qui exhortent à l'originalité à tout prix, et il dit ça crée pas des hommes nouveaux mais des concurrents qui pour tous se distinguer font tous la même chose, et c'est pour moi la concurrence, c'est ça, c'est qu'à un moment on se regarde tellement les uns les autres si on est en concurrence qu'on fait tous pareil, parce qu'on se dit ah mais non lui il a fait ça, bah attends faut que je le fasse aussi, et puis je vais faire ça, puis ça va lui donner envie de le faire, etc. Donc ça c'est pas très intéressant.
Elle est unique, la voici, la chronique numéro 8 de Francis, l'égoïsme se partage. Pas d'introduction, j'aurais pu lancer quelques notes comme ça de Jesus Blood, mais j'ai pas la version de 20 minutes, donc tant mieux. Et puis je pourrais également lancer la suite lyrique du String Quartet, le quatuor de
Alban
Berg, qui sera donné le samedi 19 mars. Peut-être nous restera-t-il une ou deux minutes en toute fin d'émission pour quelques petites annonces de théâtre et de diverses choses, mais là, il est temps. C'est la numéro 8, hein, tu m'as bien dit. Francis, c'est à toi.
Eh ben, merci beaucoup pour ce passage d'antenne. L'égoïsme se partage, chronique presque littéraire. Hashtag 7, en fait. La dernière fois, nous avons parlé d'héritage éducatif et d'héritage psychologique à travers le dernier livre de Catherine Cusset, La définition du bonheur. Cette semaine, j'avais envie de parler de justice, ou plutôt d'injustice, ou même des deux. Et nous allons surtout parler de naïveté. Il s'agit du dernier roman de Rachid Benzine, Voyage au bout de l'enfance. Alors attention, je préfère prévenir tout de suite, âme sensible, s'abstenir. Le livre est très court, à peine une centaine de pages, mais ça suffit largement pour comprendre, entendre et mieux appréhender le propos. Comment décrire l'horreur contemporaine liée au terrorisme international? Eh bien, Rachid Benzine a trouvé une solution terrifiante et réaliste, tout simplement en la regardant à travers les yeux naïfs d'un enfant de 10 ans, qui en filigrane raconte également la naïveté de ses parents. Fabien a quitté la France pour la Syrie avec ses parents, convertis à l'islam. Fabien, passionné de poésie, perd toute sa vie d'avant, à Sarcelles, où il était heureux. Il voue une admiration sans borne pour son instituteur qui croit beaucoup en lui. Leur arrivée à Raqqa n'est qu'une suite de désenchantements pour les parents de Fabien. Fabien, devenu Farid, subit cette nouvelle vie avec naïveté et candeur, alors que ses parents ne vivent qu'une longue suite de désillusions. Cette naïveté de Fabien ne durera qu'un temps, jusqu'à ce qu'il comprenne que ses parents ont peur. Peur des représailles liées à leur éventuel doute. Puis rapidement, le père disparaît au combat. La seconde partie n'est pas beaucoup plus reluisante. Après la chute de leurs illusions, Fabien voit arriver son petit frère Selim, né d'un énième mariage forcé de sa mère après la mort de son père. Cette petite famille est rapidement arrêtée et enfermée dans un camp dans l'attente d'un jugement. Il raconte et décrit les conditions de vie déplorables où il côtoie maladies, manque d'hygiène, violences quotidiennes à l'intérieur et à l'extérieur des barbelés. Il raconte la démence de sa mère et les petits bouts de joie qu'il peut glaner. Un roman criant de vérité qui va beaucoup plus loin qu'une simple description. Il n'existe encore que très peu d'écrits sur cette période récente difficile et qui impacte toute la planète. On fait facilement des liens entre sauvagerie humaine qui ponctue le monde à travers les différentes époques. Récit violent mais juste de cette période difficile, de cette guerre syrienne de 2015 à 2019. C'est publié au Seuil et tout est dit en moins de 100 pages. Rachid Benzine pose des questions, tente de comprendre à travers les yeux d'un enfant les inquiétudes d'une époque de plus en plus fragile. Et je terminerai ma chronique en citant cette dernière phrase. Les malheurs des enfants, je crois que ça n'intéresse jamais vraiment les gens. Sinon, ça ferait longtemps qu'on les ferait plus souffrir.
C'est dur de nous mettre ça après cette émission que moi je trouvais absolument réjouissante avec plein de choses très intéressantes. Je me demande si certains de vos propos à tous deux, à vous peut-être même surtout Richard, n'ont pas confiné à une forme de philosophie de ce qu'on appelle l'esthétique, enfin du moins des questions à se poser sur qu'est-ce qu'on cherche à faire, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire, et puis même on se faisait ces réflexions hors antenne, l'art, la culture, etc. Peut-être quelques petites annonces sur la scène principale de l'opéra. Commencera le 18 mars jusqu'au 7 avril, Les Secrets de Famille. C'est le festival de l'opéra de Lyon annuel qui, c'est vrai, avec Covid ces dernières années, je crois qu'il n'a pas eu lieu en 2021, même j'en suis certain. Il n'a pas non plus eu lieu, je pense, en 2020, puisque tout avait bouclé à la mi-mars. Il y aura d'autres opéras à venir un peu plus tard, mais pendant cet événement de, ça fait quoi? Ça fait presque un mois, 3-4 semaines. Deux grands opéras sont donnés, Rigoletto de Verdi et puis Irello de Franz Schreker, et puis une œuvre un peu étrange. Seriez-vous responsable de cette idée, la nuit funèbre Trauernacht de Jean-Sébastien Bach, c'est-à-dire des...
C'est toi?
C'est très étrange, ce sont des cantates de Bach qui ont été qui sont mises en scène au Célestin. Alors encore en plus un lieu improbable. Quoique ce n'est pas la première fois, il y a déjà du Olivier Py. Olivier Py avait déjà monté Benjamin Britten, je crois, au Célestin il y a cela quelques années, donc un partenariat très intéressant. Il y aura tout de même une histoire autour de la table à manger familiale. Quatre frères et sœurs se retrouvent après la disparition de leur père. Encore un père qui disparaît, Francis. Tout ça, c'est à retrouver sur le site.
Je suis toujours impressionné par l'opéra. Ta culture des spectacles vivants à Lyon.
Ah, il y en a beaucoup.
Toujours tout.
Il y en a beaucoup à venir. Il y a du théâtre aussi à venir. Théâtre Tartuffe est donné actuellement. Ça commence demain par Macha Makaïev, okay, au TNP. Tartuffe Théorème, elle donne également une exposition, manifestation, trouble fait. Ça se tient également au TNP. C'est bien, c'est sur une belle durée du 3 mars jusqu'au 19 pour la pièce Tartuffe. Et pour ce qui est de son exposition, ça a commencé, je crois, peut-être fin février, et c'est donné jusqu'à la fin avril. C'est alors exposition Macha Makaïev. Kaïev, ça doit partir dans tous les sens. Peut-être essaierons-nous de la recevoir. Il y a aussi au théâtre, au Célestin, du cinéma. Qui est en fait mise en scène avec deux pièces. La Mouette de Tchekhov, qui est donnée par Cyril Test, un spectacle avec beaucoup d'éléments filmés. Et puis Anna, A-N-A, c'est en fait le À nos amours, l'adaptation sur scène du film culte de Maurice Pialla. Je parle bien de théâtre et je parle également de cinéma. C'est donc au Célestin, avec ce Nuit funèbre qui va arriver juste après. Les Célestins là, vont vivre un mois de mars assez particulier. Masterclass également assurée par Catherine Corsini. Également personnalité, enfin figure du cinéma, donc vraiment beaucoup de choses. Et puis si je parle de cinéma, je ne peux pas ne pas évoquer un film à venir lundi prochain par une association un peu, on pourrait appeler ça comics, pas seulement lyonnaise mais également nationale, enfin française. Le film V for Vendetta, V pour Vendetta, sera projeté au cinéma Bellecombe sur la rue d'Inkermann avec le dessinateur. Il sera présent, non pas Alan Moore, je crois qu'Alan Moore est difficile à débusquer, il est compliqué de le faire sortir de, je crois qu'il se terre en Angleterre, je ne sais plus où, mais en revanche David Lloyd sera bien présent. Et le lendemain, il sera en dédicace au magasin Comic Zone. Si vous avez un exemplaire de V for Vendetta, je crois que c'est quand même, enfin moi je ne crois pas, c'est une très bonne œuvre. Le film, c'est peut-être un petit peu différent. Et sans oublier, pour terminer, l'exposition À la mort, à la vie continue, Vanité d'hier et d'aujourd'hui. Nous recevions, vais-je réussir encore cette fois-ci, Ludmila Virasa Minaiken. Ludmila Virasa Minaiken, nous la recevions dernièrement. Et j'oublie Bim. Bim, c'est la biennale, tu m'avais lâché, Francis, début février, pour la venue d'Anouk Avis, co-directrice de la biennale Musiques Exploratoires. Réécoutez l'émission si vous le souhaitez. Richard Robert, on ne sait pas tout dit.
Non, mais jamais.
Peut-être pourriez-vous revenir d'ici la fin de saison, ou alors en saison prochaine
quand,
pour annoncer la programmation. On vous laisse, parce que pour le coup l'expression est juste, vous avez un train à prendre.
Absolument.
Très bien, merci beaucoup. On va quand même se quitter avec Gavin Bryars. On va quand même lancer ce grand tube, puisqu'on a écouté tout à l'heure un tube d'Arendelle, c'était Bluette. On a écouté un autre tube ensuite, celui de Moondog. Ouais, je l'avais déjà entendu même récemment, je ne savais pas que c'était bien ce titre-là qui portait ce nom. On va écouter le Jesus Blood Never Fails Me Yet, une magnifique histoire qui sera peut-être contée à nouveau sur cette voix enregistrée. On n'a jamais retrouvé la personne. Écoutons cela, nous disons au revoir. Pascal est déjà là pour le Blues et Canu. Francis, rendez-vous semaine prochaine, chronique numéro 8.
La semaine prochaine, chronique numéro 8.
C'est très bien. Richard, bonne semaine à vous, bonne programmation. Et auditeurs, auditrices, restez à l'écoute des programmes de Radio Canu. Blues et Canu à venir. Mélancolique ou Mélanmaniaque, je ne sais plus quelles sont toutes les émissions. Mayday, le Canu Info à 19h, et puis encore plein de choses. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut tout le monde.
Never found me, yet never found me, yet Jesus' blood never found me yet. This one thing I know, for he loves me so. Jesus' blood never found me yet, never found me yet. Jesus' blood never found me yet. This one thing I know, for he loves me so. Jesus' blood never found me yet, never found. Never found me yet. This one thing I know, only love. Jesus' blood.